99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 3 mars, j'espère que vous avez passé une bonne journée. À l'émission aujourd'hui, Daphné Ménard, elle est directrice stratégie chez Maxi. On va parler de l'application Flash Food qui permet d'empêcher que des aliments encore bons se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Aussi, à l'émission avec Jacques Plante, on se pose la question, devrait-on cesser de changer l'heure au Québec? Isabelle Perrault sera avec nous, la présidente de la table des préfets de Lanaudière. Il sera question de zones inondables. On aura aussi avec nous le député Gabriel Sainte-Marie de la circonscription Joliette-Manawan. On va parler de pénitencier. Mais tout d'abord, son collègue à la Chambre des communes, Yves Perron. Et c'est d'ailleurs la semaine de relâche à la Chambre des communes et le Bloc québécois qui en profite là, pour faire une sortie contre le gouvernement Carney sur certains dossiers qui ont fait l'actualité là, au cours des dernières semaines, notamment le projet de loi C-15 qui ouvre toute grande la porte là, à certains projets sans consultation. Et un entretien qu'a réalisé un petit peu plus tôt le collègue François Morin avec le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron.
Et voilà, particulièrement le TGV du groupe Alto, pour qui une section spécifique du projet de loi qui vient modifier de façon importante et néfaste à notre selon notre jugement à nous, néfaste, très néfaste, la loi sur l'expropriation, entre autres.
Bon, ben justement, c'est que on se souvient de Mirabel, on en a parlé beaucoup dans l'actualité. Malgré les tentatives, le discours d'Alto, il y a toujours un risque.
Ben en effet, puis vous faites bien de nommer Mirabel, parce qu'on s'est servi de l'exemple historique de Mirabel, d'ailleurs qui avait jamais reçu d'excuses depuis 1969. Faut le faire, hein, le gouvernement canadien s'excuse à plein de monde, sauf aux Québécois, là, c'est une coutume. Et là, on a forcé le jeu un peu en utilisant le nouveau projet de train, puis en le mettant en comparaison avec les expropriations qui avaient été faites à Mirabel. Et puis tout le monde s'entendait pour dire que c'était épouvantable, qu'est-ce qui s'est fait à cette époque-là, puis qu'il y avait ben trop exproprié pour rien, 85% de l'État qui ont dû être retournés, puis que ça arriverait plus jamais. Alors, ça a été assez facile de convaincre tout le monde de voter à l'unanimité, d'abord de présenter des excuses aux gens de Mirabel, mais surtout, et c'est ça qui était important, c'était d'obtenir un engagement formel que des atrocités comme ça ne se reproduisent jamais, parce qu'on sait que le TGV s'en vient dans traverser Berthier-Masquinongé, entre autres. Et c'est ce qu'on a obtenu comme engagement. Sauf qu'en parallèle avec ça, quand on fait des discours, on leur explique que ça n'a pas de bon sens, entre autres, retirer le droit des citoyens de contester une expropriation ou de contester le prix offert ou d'avoir le droit de se faire entendre par un commissaire neutre. On enlève tout ça là, dans ces 15 ans. Ben, quand on dénonçait ça, on nous disait, ben oui, mais arrêtez de faire peur au monde. Les lois ont changé depuis 1970, justement. Les lois sur l'expropriation ont été améliorées pour protéger les citoyens. Mais là, on décide, parce que le gouvernement Carney est pressé de faire un train, on décide que ces lois-là ne s'appliquent pas dans le cas du train. Après ça, on les accuse, nous, de lever des épouvantails, là. Donc, ça a brassé pas mal. Et puis, nous, on a tout fait pour amender le projet de loi C-15, retirer cette section épouvantable du projet de loi. Puis, ça, les conservateurs et les libéraux, on vote en faveur. Puis, les gens qui nous écoutent, là, faites-vous pas berner, là. En Chambre des communes, les gens ont compté les votes. Puis, les conservateurs, ils ont voté pour. Ils ont voté contre, c'est-à-dire à la Chambre des communes, mais en calculant bien les votes pour être sûr que qu'il manquait suffisamment de monde pour que ça passe. Puis en comité avant, ils avaient voté pour maintenir ces amendements-là. Donc ça, on appelle ça de l'hypocrisie politique.
Ceci étant dit, il y a quand même d'autres dossiers qui ont retenu l'attention, notamment des compressions qui ont été annoncées dans le transport collectif. Dieu sait que dans Lanaudière, le transport collectif, c'est important, on a de la difficulté à le financer. Et là, ben, ça va être difficile là, d'aller avec de nouveaux projets.
C'est assez ironique quand même, hein? Au moment où on dit on va tout mettre les conditions pour passer un train qui va coûter plusieurs centaines de milliards, dont des fois on se demande si on a vraiment besoin. C'est sûr que sur le principe, un TGV, c'est intéressant, mais est-ce que peut-être on a d'autres infrastructures de transport en commun à mettre en place avant? En parallèle avec ça, on coupe 5 milliards dans le transport en commun, cagnotte en plus, dont il n'y a aucune somme qui est venue au Québec encore. Puis le fédéral se refuse encore, par exemple, à payer sa juste part du tramway à Québec. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Après ça, on se demande au Parlement fédéral, une fois de temps en temps, il nous pose la question, mais voyons, pourquoi êtes-vous indépendantiste dans ce magnifique pays? Mais voilà un maudit bel exemple.
On sait qu'il y a un projet dans le sud de la Naudière, il y a un projet là, de tramway. On souhaitait que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec s'entendent parce qu'il y a des sommes qui dorment à Ottawa.
Ben oui. On parle plus souvent du tramway de Québec parce qu'il est plus avancé, mais effectivement, on a des beaux projets dans la région. Puis ça serait très, très pertinent d'avoir ça. Ça réduirait la congestion routière, ça rendrait la vie des gens plus relaxe, plus facile. Puis l'argent est bloqué dans le deuxième parlement qu'on contrôle pas, alors qu'on paye la moitié de nos taxes et nos impôts là-bas.
En terminant, il y a le monde agricole qui s'est adressé au gouvernement fédéral pour avoir accès à des mesures fiscales d'amortissement, une déduction à 100% pour les investissements liés à la rénovation. Est-ce qu'on a bon espoir? En fait, j'imagine que le dossier va revenir là lors de la reprise des travaux.
Oui, en fait, c'est une demande qui date d'un certain temps, qu'on porte comme outil de remettre de l'avant, parce que là, on a besoin d'investissement local avec la situation commerciale avec notre voisin du Sud, entre autres, qui met à mal, par exemple, notre industrie du bois, qu'on pourrait favoriser l'utilisation du bois dans les bâtiments agricoles. Puis le monde de l'agriculture demande ce type de déduction-là depuis longtemps, puis ce 100% de déduction-là existe dans le domaine industriel, puis pas pour le monde agricole. Tu sais, quand je vous dis qu'on tient pour acquis les gens du monde agricole, bon Dieu, c'est pas grave, ils vont travailler pareil, puis ils vont livrer pareil. À un moment donné, là, ça suffit là, d'avoir une iniquité là-dedans. Puis ce qu'ils demandent aussi, c'est que ça puisse être amorti rapidement là, dans les premières années, dans la première année. Souvent, ça va donner un gros coup de main à l'entreprise. Puis il faut pas oublier que c'est des PME qui ont besoin de souffle et d'oxygène aussi, là.
Voilà, c'est François Morin qui s'entretenait avec le député bloquiste de la circonscription de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Et dans un moment, on aura l'occasion d'entendre son collègue député de Joliette-Manawan, Gabriel Sainte-Marie, sur un tout autre sujet. Il sera question de pénitencier.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Youhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Ici Pascal Babin. Le Festival Saint-Patrick de Radon, présenté par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Waro, est de retour. La municipalité vous propose un week-end festif de tradition irlandaise du 13 au 15 mars. Des soirées animées et des activités pour toute la famille durant 3 jours. Et ça se termine le dimanche avec la traditionnelle parade dans les rues de Radon dès 14h. Mais arrivez tôt, puisque plusieurs activités sont prévues avant, pendant et même après la parade. La municipalité tient à remercier chaleureusement ses partenaires. Visitez le radon.ca pour plus de détails.
La saison des roules pour gagner est en cours. Une vague de prix déferle chez Tim, incluant des expériences VIP SiriusXM, des billets du Cirque du Soleil et des cartes cadeaux Simons. Jouez sur le gobelet et sur l'appli jusqu'au 22 mars. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.
Lanaudière PM, politique fédérale.
Il est 16h15, autre pomme de discorde entre le Bloc québécois et le gouvernement Carney. Sans que ce soit annoncé, vraiment, là, il y a Ottawa qui sabre 130 millions de dollars sur 3 ans dans les pénitenciers. Et force est de croire que le centre de détention pour femmes de Joliette sera affecté. Et François Morin en discute avec le député de Joliette-Manawan, Gabriel Sainte-Marie.
Alors, Gabriel Sainte-Marie, on apprend une compression de 130 millions sur 3 ans au niveau du système carcéral fédéral. Ça sort d'où, cette nouvelle-là?
Ben, c'est en lien avec le budget puis le projet de loi de mise en œuvre. Là, le gouvernement comme ils dépensent plus avec la stratégie militaire puis l'aide aux industries pétrolières, il veut baisser les dépenses du gouvernement de ses ministères. Puis là, ben, c'est 130 millions pour les services correctionnels, ce qui est bien inquiétant.
Évidemment, là, quand il arrive des compressions comme ça dans le système correctionnel, dans les pénitenciers, c'est la sécurité des gens à l'intérieur et peut-être même à l'extérieur qui est compromise, non?
Oui, là, ce qu'on sait de la part du syndicat, c'est que c'est beaucoup des postes de patrouilleuses, patrouilleurs, de jour et de nuit qui sont abolis. Puis ça, ben, on s'inquiète, là, il y a de plus en plus de livraisons par drone, tout ça, donc il va avoir moins de sécurité. Ça, c'est inquiétant. Puis aussi, ben, les personnes qui partent à la retraite ne seront pas systématiquement remplacées. Ça veut dire moins d'employés pour assurer la sécurité de façon concrète. Puis ben 130 millions, il y a 10 pénitenciers, ça veut dire en moyenne 13 millions. Là, donc on peut s'attendre possiblement là à des compressions de 13 millions pour le centre à Joliette.
Le centre de détention pour femmes de Joliette n'a pas tellement fait l'actualité au niveau des activités illicites, notamment là, la livraison de drogue ou autre chose par drone, mais il y en demeure pas moins que des compressions comme ça, ça risque d'être tentant pour ceux qui voudraient mal faire.
Oui, c'est ça. On sait le centre pour femmes, le niveau de sécurité, c'est pas la même chose que des centres où ça brasse plus. Là, on est chanceux en ce sens-là. Mais le fait qu'il y ait des compressions avec des bas moins, des équipes de coupés, ben ça veut dire moins de services puis plus grand risque pour la sécurité, ça c'est certain.
Est-ce qu'on parle de risque pour la sécurité à l'interne, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens là, qui ne seront pas là pour justement là éviter les problèmes?
Ben c'est ça là. Au moment où je vous parle, les informations que j'ai, c'est de façon générale, donc on peut en déduire, oui, à l'interne, puis à l'externe aussi. Avec le système comme il fonctionne, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de gens, là, quand je suis allé visiter, qui étaient payés à rien faire, qui se tournaient les pouces, là, c'est des jobs prenantes et tout, puis là, ça veut dire qu'il va y avoir moins de monde pour faire la même job, fait que ça veut dire plus de risques, puis c'est certainement inquiétant. C'est des économies qui, à terme, risquent de coûter plus cher aussi. On dénonce cette vision-là, cette façon-là de faire les choses. Là, on peut pas lésiner avec la sécurité là, dans les établissements comme ça.
Il était un temps pas si lointain, on appelait ça la pandémie, où les gens étaient mis en confinement, là, notamment dans les centres de détention fédéraux. Est-ce qu'on risque d'en arriver là parce qu'il n'y aura pas assez de monde pour s'occuper de la population carcérale?
Ben, dans certains centres, ça pourrait être le cas. Ça, je saurais pas vous le dire présentement. Là, je suis supposé d'aller visiter le centre là, avec ma collègue à la sécurité publique, là, députée Claude de Bellefeuille, dans les prochaines semaines. On pourrait se reparler suite à ça. Puis aussi, la situation au centre de Joliette, comme la sécurité est moins élevée, je dirais que les probabilités que des confinements comme ça soient imposés est pas mal moins élevée que dans des centres où la sécurité est plus préoccupante. Mais c'est moins de services, donc c'est sûr qu'il va avoir des impacts.
On le disait au début que ça venait justement là, de la mise en application du budget, mais est-ce qu'il y a moyen encore de s'opposer?
Ah, on s'est opposé lors du vote la semaine passée, puis le gouvernement a quand même eu la majorité des votes. Fait que moi, ce qui me déçoit tout le temps là-dedans, c'est les députés du Québec qui sont du bord du gouvernement, ben ils votent avec le gouvernement plutôt qu'avec ce que leurs citoyennes, leurs citoyens leur disent. Il y a pas, je connais pas personne là, qui dit ah oui, c'est une bonne chose de couper dans la sécurité des prisons actuellement. Là.
Voilà, c'était le député de la circonscription fédérale de Joliette-Malawan, Gabriel Sainte-Marie, avec qui François Morin a eu l'occasion de s'entretenir un peu plus tôt. Il est 16h20. Ailleurs, dans l'actualité, Sainte-Fédéral, toujours le chef conservateur Pierre Poilievre a pris la parole aujourd'hui dans le cadre d'un événement d'un groupe de réflexion à Londres, en Angleterre. Il effectue son premier voyage officiel à l'étranger en tant que chef de l'opposition avec des étapes prévues au Royaume-Uni, également du côté de l'Allemagne. Et dans son discours, Pierre Poilievre a soulevé l'importance du libre-échange parmi les alliés et de mettre en place un nouveau partenariat comme il l'a précédemment proposé. On écoute Pierre Poilievre.
Un nouveau partenariat entre le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui va reconnaître nos qualifications mettre en place une équivalence réglementaire, faciliter la mobilité des travailleurs, renforcer notre collaboration en matière de défense, créer un partenariat stratégique sur des minéraux critiques, comme j'ai proposé, pour rendre nos pays plus sécuritaires.
Il y a la ministre libérale des Affaires étrangères, Anita Anand, qui a demandé un accès à l'espace aérien à Oman dans l'éventualité où une opération de rapatriement des Canadiens présents au Moyen-Orient serait organisée. Elle en a fait l'annonce lors d'une allocution à Toronto un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il y a environ 100 000 Canadiens là, qui sont prisonniers des tirs et des opérations militaires lancées en fin de semaine. Oman est situé de l'autre côté du golfe du même nom, juste en face de l'Iran. Et leur espace aérien le demeure ouvert là, à l'heure actuelle. On écoute la ministre Anita Anand.
And so I requested use of that airspace if necessary for Canadian citizens to get out.
Fait divers maintenant, il y a un homme de 50 ans qui a été accusé d'avoir tué son ex-conjointe ce matin au palais de justice de Saint-Jérôme. Patrick Clavel fait face à une accusation de meurtre au deuxième degré. La victime, Danielle Lasselle, a été retrouvée sans vie dans un logement de Saint-Jérôme le 27 février dernier. Les autorités ignorent toutefois précisément la date de sa mort qui pourrait être survenue là, dans les jours précédant la découverte du corps. Danielle Lasselle est la septième victime d'un féminicide au Québec en 2026 et l'accusé, Patrick Clavel, demeure détenu pour l'instant. Il va revenir devant la cour à Saint-Jérôme demain. Il y a la ville de Chambly là, qui dit collaborer pleinement avec les autorités en lien avec la mort d'un enfant de 6 ans qui est survenu hier. Triste accident. On peut rappeler que le jeune a succombé à ses blessures après s'être frappé la tête en glissant sur une butte de neige au parc Robert Lebel. Il est décédé devant ses parents et par communiqué, la municipalité a indiqué que l'accès à la butte et à l'anneau de glace allait demeurer interdit jusqu'à nouvel ordre. Il y a une enquête du coroner qui a été déclenchée pour faire la lumière sur les circonstances de l'événement. Et en Colombie-Britannique maintenant, le coroner en chef a annoncé la tenue d'une enquête publique à la suite de la tuerie qui a fait 8 morts à Tumbler Ridge. Il affirme vouloir se pencher sur le suivi des problèmes de santé mentale et c'est un jury de 12 personnes qui sera appelé à entendre la preuve pour ensuite le présenter des recommandations. Et comme dans le système québécois, ben l'objectif de l'enquête, c'est pas d'identifier des responsables, mais d'empêcher d'autres drames semblables selon le coroner en chef. Et rappelons que le 10 février dernier, Jess Van Rotteslaar, 18 ans, a tué 2 membres de sa famille avant de se rendre à son ancienne école pour y abattre 5 élèves et un professeur avant de s'enlever la vie. On écoute le coroner en chef de la Colombie-Britannique.
The recommendations that they make are non-fault finding. We're an inquest where we sort of try to get to the truth about things and try to see whether we can improve and change what happened so it never happens again.
Aux États-Unis maintenant, le procès de Live Nation, l'entreprise qui est derrière Ticketmaster, s'est ouvert cette semaine à New York. L'organisateur de spectacle est poursuivi par le gouvernement américain pour pratiques anticoncurrentielles plutôt. Et Washington déplore que la position dominante de l'entreprise dans le marché force les artistes à faire affaire avec elle, ce qui mène notamment à la hausse des prix des billets. Et le gouvernement réclame son démantèlement. Jennifer Cade est professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. C'est une experte des pratiques commerciales et éthiques. On l'écoute.
Est-ce que ceci permettra à des plus petits joueurs qui existent, mais qui ne sont pas très importants, de vraiment prendre plus de place et d'avoir une concurrence plus saine? Ce n'est pas évident, à mon avis. Ça prend des fois plus que simplement enlever la puissance commerciale, mais ce serait un début.
Et chose importante, il faut mentionner que le promoteur de spectacle montréalais, Evenco, est détenu à 49% par cette compagnie Live Nation. Et puis finalement, une mère de famille affirme ne payer que 70$ d'épicerie par mois depuis qu'elle fouille des conteneurs à déchets des commerces d'alimentation. Laurence Kidd-Forcier indique ne pas encore l'avoir fait durant les temps chauds des mois d'été, mais elle dit trouver de tout et même des aliments frais. On l'écoute.
Il y a énormément de produits frais, en fait, des œufs, du fromage, de la viande, des fruits, des légumes. tout y passe. C'est sûr qu'au début, j'étais un peu plus gênée quand j'ai commencé. Puis maintenant, j'ai plus aucune gêne. Mes enfants, même, ils sont contents d'avoir autant de variétés à la maison. On n'a jamais eu autant de nourriture sur nos tablettes.
Et il faut mentionner aussi qu'elle fait bénéficier les frigos communautaires d'une partie de ses trouvailles. On a l'occasion aussi d'ailleurs, un peu plus tard au cours de l'émission, de revenir sur ce sujet-là avec Daphné Ménard. Elle est directrice stratégie chez Maxi. On va parler d'une application qui s'appelle Flash Food, qui permet justement d'empêcher que des aliments, là encore bon, se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Il est 16h26. Un coup d'œil à la circulation, la métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est plutôt dense dans le secteur de Marien, là, mais rien de grave, juste un petit peu plus nombreux, et c'est comme ça là, jusqu'en Ribourasson. On avance quand même à une vitesse raisonnable. La traversée est facile vers la rive nord, 40 est Repentigny, on circule sans problème. Mentionnons que la montée de l'Épiphanie, c'est passablement lourd là depuis la 40 et ce jusqu'à la rivière l'Assomption. Et aussi, je remarque que la voie de service de la 40 en direction de la montée Saint-Sulpice, là, c'est lent sur environ 1 km dans le secteur. Bon, le gardeur, ça va bien. L'approche est facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. 25 Nord, un petit peu dense, jonction avec la 440. Sinon, secteur du boulevard de Mille-Îles, de l'île Saint-Jean-Terrebonne, ça va bien. Mascouche, on circule sans problème également. Et finalement, l'autoroute 640, ça va relativement bien dans les deux directions, entre la 25 et la 40, malgré qu'on soit un petit peu plus nombreux là en direction ouest à l'approche de la montée des Pionniers. Pont Sophie Masson, c'est facile en ce moment. L'actualité dans un moment avec Pierre Jubinville.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 1er mars. Ils remportent 100$ grâce à la ligne des G. Marie-Lou Lambert de Mandeville, carte achetée au marché Madame S. Lina Poirier de Saint-Laurentide, une carte procurée à Sainte-Julienne au dépanneur Ultramar. Sylvie Douer de Saint-Félix-de-Valois qui s'est procurée sa carte chanceuse au dépanneur Estelle. Et Nancy Jean de Joliette, une carte procurée à la tabagie 636. Remporte 4000$ grâce à sa carte achetée à l'Intermarché Saint-Esprit, Camille Chartrand de Saint-Lin-Laurentide. Quant à la deuxième chance, 600$. Elle a fait deux heureux. Jean-Philippe Savoie de Saint-Félix-de-Valois, une carte achetée à la tabagie Saint-Félix, et Marjolaine Rondeau de Saint-Zénon, qui s'est procuré sa carte gagnante au dépanneur Rondeau. Ils remportent 300$ chacun. Tous les dimanches matins, 10h05, gagnez gros au Super Radio Bingo de CFNJ. 5000$ gagnés avec les trois jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8$ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. Section Super Radio Bingo.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette-Nissan est là pour vous. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ici Pascal Babin. Le Festival Saint-Patrick de Radon, présenté par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Waro, est de retour. La municipalité vous propose un week-end festif de tradition irlandaise du 13 au 15 mars. Des soirées animées, des activités pour toute la famille durant trois jours. Et ça se termine le dimanche avec la traditionnelle parade dans les rues de Radon de 14h. Mais arrivez tôt, puisque plusieurs activités sont prévues avant, pendant et même après la parade. La municipalité tient à remercier chaleureusement ses partenaires. Visitez le radon.ca pour plus de détail.
Venez célébrer l'arrivée du printemps à l'érablière Jean Parent de Saint-Ambroise de Kildare. Au menu, jambon, bacon, sirop d'érable, tire sur la neige, ainsi que tous ces délicieux accompagnements qui ont fait la réputation de l'érablière Jean Parent. Et tout cela à volonté. La grande famille de l'érablière Jean Parent vous souhaite un sucré de bon printemps. Réservation 450-753-3146. Pour plus d'informations, jeanparent.com. Apportez votre boisson. L'érablière Jean Parent est située au 1571 route 343 à Saint-Ambroise-de-Kildare.
L'actualité de ce mardi 3 mars en manchette. Le Liban et l'Iran sous les bombes. Le prix de l'essence commence à grimper et du renfort français en Méditerranée. Et tout d'abord, Pierre Jubinville, le détroit d'Ormuz qui est toujours fermé.
Oui, au quatrième jour de cette guerre au Moyen-Orient, c'est par là, Claude, que transite 20% de tout le pétrole mondial. Faut préciser quand même qu'il n'y a aucun baril de cette région qui est acheminé au Canada, mais les prix à la pompe commencent quand même à augmenter un peu partout. La France a annoncé aujourd'hui l'envoi d'un porte-avions en Méditerranée. On écoute le premier ministre, le président plutôt, Macron.
Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates, fassent route vers la Méditerranée.
Et les frappes se sont poursuivies dans les dernières heures.
Oui, au Liban, mais aussi à Dubaï, où le consulat ce soir américain a été frappé par un drone. Et plus tôt dans la journée, il y a le consulat à Riyad qui a été aussi frappé par un drone iranien. Alors, on a demandé aux ressortissants du Canada, américains et allemands, ainsi que les Français, de prendre des mesures pour faciliter les départs des ressortissants. Il y a eu 1700 frappes américaines et israéliennes depuis samedi. On écoute Philippe Bonneville.
Le président est catégorique, que ce soit la force navale iranienne, leur force aérienne ou encore leur radar de détection, presque tout a été anéanti.
They have no navy, it's been knocked out. They have no air force, it's been knocked out. Their radar has been knocked out. Just about everything's been knocked out.
Donald Trump croit par ailleurs que le pire scénario en Iran serait qu'un nouveau dirigeant aussi pire que celui qui a été tué prenne la tête du régime.
I guess the worst case would be we do this and then somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen.
Il ne s'en fait pas du tout avec la flambée du prix du pétrole, affirmant que lorsque la guerre sera terminée, ça coûtera encore moins cher qu'aujourd'hui faire le plein d'essence.
As soon as this ends, those prices are going to drop, I believe, lower than even before.
Philippe Bonneville pour Cogeco Nouvelles.
Et les marchés pétroliers boursiers sont touchés de plein fouet.
Oui, dans la journée, à l'ouverture à New York, le Dow Jones perdait 1200 points. Finalement, il a clôturé à 421 points en baisse. C'est plus difficile à Toronto avec une baisse de 2 %. Et pour ce qui est du pétrole, eh bien, le conflit se fait déjà sentir sur le prix de l'essence au Québec. Carole Montreuil, qui est porte-parole de l'Association canadienne des carburants, affirme qu'il est normal que le prix change aussi rapidement.
Et c'est vraiment un bordel présentement. C'est une des pires situations que moi j'ai vues dans ma carrière. La matière première fait foi de tout, on le sait. La matière première, le pétrole brut, c'est un peu ce qui dicte en grande partie les prix à la pompe. Avec comme résultat, avant le début du conflit, la semaine passée à Montréal, on avait du 1,42 $ dans les rues. Puis ce matin, j'ai vu qu'il y avait du 1,55-1,56 $.
Il y a les soldats canadiens là, au Moyen-Orient qui sont quand même là, hors de danger.
Oui, on dit qu'ils sont hors de danger. C'est le ministre fédéral de la Défense, David McGuinty, qui l'affirme. McGuinty a souligné que le gouvernement du Canada surveille de près la situation. Mathieu Paquette, de la presse canadienne.
Le ministre David McGuinty n'a pas précisé le nombre exact de soldats canadiens présents au Moyen-Orient. Il a toutefois assuré que ceux qui s'y trouvent sont en sécurité. M. McGuinty a réitéré que le Canada appuie l'opération des États-Unis et d'Israël en Iran. Il a tout de même noté que le Canada n'a pas participé à la préparation ou à l'exécution de l'attaque.
Les forces armées canadiennes n'ont pas été impliquées, ne sont pas impliquées.
Pour les Canadiens qui sont coincés au Moyen-Orient, M. McGuinty assure que de l'aide sera disponible.
Nos équipes diplomatiques au Canada sont là pour aider. Les gens sortent maintenant sur des vols commerciaux. On se tient à l'écoute de très près avec ce qui se passe.
Mathieu Paquette, la presse canadienne.
Et chez nous, Pierre, le chef péquiste est bien conscient que les conflits mondiaux là, influencent l'opinion et plutôt l'option souverainiste.
Oui, malgré cela, il garde le cap. Il affirme que l'indépendance du Québec est, selon ses mots, une absolue nécessité.
C'est sûr qu'on est dans un environnement géopolitique instable. Ça génère... Pour toute personne qui voit l'actualité, c'est sûr que ça génère une forme de peur légitime. Dans un monde qui va changer, qui va être rempli d'actualités dans toutes les directions, je préfère nettement que le Québec soit à la table à veiller à ses affaires que d'être au menu.
Et par ailleurs, le Parti québécois a officiellement une nouvelle députée.
Oui, Marie-Carline Laflamme, elle a été élue la semaine dernière dans Chicoutimi et c'était son assermentation aujourd'hui. Louis Lacroix.
Je, Marie-Carline Laflamme, déclare sous serment.
Sitôt assermentée, la nouvelle députée n'a pas renié ses origines.
Je suis fière de faire simple, de marcher sur des cotteurs puis de mettre ma frotte l'hiver.
Pour son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, le message envoyé par les électeurs de Chicoutimi est clair.
Le Québec réclame un changement profond.
Le chef péquiste s'en est pris au vieux parti qui cultive la peur à travers un mensonge confortable.
Et le mensonge confortable ne peut pas être le socle d'un avenir positif pour les Québécoises et les Québécois.
Malgré l'insécurité mondiale, Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas l'intention d'abandonner son objectif ultime.
Je préfère nettement que le Québec soit à la table à veiller à ses affaires que d'être au menu.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle, Québec.
Et finalement, Pierre, la PCHQ qui montre les syndicats du doigt pour la hausse des prix d'une résidence.
Oui, l'Association des professionnels de la construction affirme qu'une maison neuve va coûter beaucoup plus cher, à environ 40 000 de plus pour une maison au prix médian de 745 000 $. C'est quand même beaucoup. La PCHQ montre du doigt les récentes hausses salariales accordées aux travailleurs de la construction, mais le porte-parole de l'Alliance syndicale, Alexandre Ricard, affirme, lui, que c'est une campagne de peur.
On s'entend, c'est dans 3 ans. Donc, le 40 000, il va y avoir des augmentations tranquillement à ce niveau-là. Nous, nos augmentations de salaire qu'on a obtenues par le biais de l'arbitrage, c'est un rattrapage par rapport à l'inflation perdue durant la crise inflationniste, durant la pandémie. Donc, si on enlève ce rattrapage-là, on parle d'augmentation de salaire d'environ 3% par année. Je pense que c'est plus que raisonnable.
Ben merci beaucoup à Pierre Jubainville. Il est 16h37.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFMG.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Bon, un autre cri du cœur des MRC à l'endroit du gouvernement, cette fois en matière de prévention des risques à la crue des eaux. Les MRC qui réclament de revoir les modalités de l'entente de délégation de pouvoir pour la production des nouvelles cartes de zones inondables. La présidente de la table des préfets de Lanaudière, Isabelle Perrault, répond aux interrogations du collègue François Morin.
Isabelle Perrault, on apprend que 13 MRC là, qui ont demandé de revoir les modalités de l'entente de délégation, c'est concernant les zones inondables, sauf qu'il faut comprendre que même si Lanaudière n'est pas là-dedans, on a des problèmes chez nous aussi. Là.
Ben oui, toutes les MRC sont préoccupées, incluant les MRC là, qui sont représentés à la CMM, là, que tout ce qui est l'agglomération alentour de Montréal. Effectivement, la FQM a sorti ça avec 13 MRC, mais toutes les MRC sont très préoccupées par ça.
Parce que les cartes sont pas claires, parce que la délégation de pouvoir permet pas, parce que l'argent suit pas, donc les MRC ne peuvent pas nécessairement agir.
Exactement. Le financement, ça va être quand même un travail très important une responsabilité qui vient avec aucun financement. Toute l'appui technique aussi du gouvernement provincial qui détient des données parfois beaucoup plus précises que certaines municipalités ou MRC. Puis ensuite, il faut intégrer ces cartes-là dans tous nos outils de planification et d'aménagement du territoire. Donc, il faut s'assurer qu'on soit capable de le faire. Puis il reste encore des zones d'ombre importantes, là, entre autres les conséquences de se retrouver en zone inondable. Tu sais, ceux qui se font inonder à chaque année savent très bien qu'ils sont en zone inondable et que ça a des conséquences sur leur propriété, mais avec les changements climatiques puis les expériences qu'on a vécues dans les dernières années avec les inondations, ce territoire-là tend à s'élargir de façon modérée, élevée ou extrême. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une zone modérée? On n'est plus dans les mêmes paramètres là, comme avant, 0,20 ans, 0,100 ans. On est ailleurs, donc ça va être très important qu'on soit capable de faire cette communication-là aux citoyens, qu'ils sachent à quoi s'attendre, les conséquences de tout ça. Et pour l'instant, là, on est un peu dans le flou.
Bon, ben justement, il y a beaucoup d'imprécisions sur les cartes même.
Oui.
Elles sont difficiles à comprendre, donc difficilement applicables.
Ben c'est ça, toutes les modalités pour utiliser ces cartes-là sont pas claires. Et il faut aussi se dire que avec les changements climatiques, les épisodes plus extrêmes, ben c'est très important pour la sécurité des gens. Il faut que les gens connaissent la situation de leur propriété quand ils sont en première, deuxième, troisième, quatrième ligne d'un plan d'eau.
Et il y a un danger pour les MRC d'être poursuivis parce qu'elles ont justement la responsabilité d'établir et de faire appliquer les cartes. Alors, s'il y a des citoyens qui se trouvent en zone pas tellement à risque, mais qui subissent une inondation, ben là, c'est la MRC qui risque d'écoper.
Exactement. Ils peuvent, effectivement, puis aussi qui se trouvent dans une catégorie pas tellement à risque, mais qui ont des conséquences importantes sur, par exemple, la valeur de leur propriété ou les modifications qu'ils devront faire pour être assurés, par exemple. Là, c'est vraiment c'est assez chaotique, là, si c'est pas extrêmement clair.
Le printemps s'en vient, est-ce qu'il est trop tard?
Ben là, c'est sûr que le régime transitoire venait en force le 1er mars. Les cartes seront pas prêtes pour le prochain dégel. C'est officiel.
Ah donc, comme on le dit en bon québécois, ça va être au plus fort la poche.
Ben c'est sûr qu'on fait des représentations. La FQM, là, de toute évidence, est très près du dossier avec nos unions municipales. Donc, c'est important qu'on amène le gouvernement à clarifier tout ça puis à s'assurer que les responsabilités qu'auront les MRC viendront pas en confrontation avec les citoyens.
Et on dit justement, là, en terminant peut-être, là, que Québec ne sera pas en mesure de fournir un calendrier de livraison des cartes nouvelle génération, ce qui accentue davantage là, l'incertitude et les imprécisions.
Et voilà, oui, effectivement.
Contenu IJL, initiative de journalisme local.
Bon, voilà. Alors, c'était Isabelle Perrault, la préfète de la présidente de la table des préfets de la Naudière. Il est 16h42. Dans un moment, Jacques Plante.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement 398 $ plus taxes par mois sans aucun compte initial. Chez Joliette Nissan.
Vous êtes entrepreneur et désirez faire connaître votre entreprise auprès des gens d'affaires du Grand Joliette? Ne manquez pas le souper tournant de la Chambre de commerce du Grand Joliette présenté par CFNJ en collaboration avec Promutuelle Assurance Lanaudière pour une expérience réseautage efficace et des plus performantes. C'est un rendez-vous le 25 mars prochain au Club de golf de Joliette et les billets sont en vente maintenant au ccgj.qc.ca.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
Dans la Naudière, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
Au concert du dimanche à CFNJ, Lara Fabian.
Je t'aime, je t'aime.
Le concert du dimanche, dimanche matin 7h à CFNJ.
À CFNJ. Voici le commentaire de Jacques Plante.
Bonjour Jacques.
Bonne fin d'après-midi Claude et bonne fin d'après-midi tout le monde.
Un sujet récurrent à cette période de l'année et également à l'automne lorsqu'arrive le moment de changer d'heure parce qu'on change d'heure en fin de semaine.
Oui, on commence à en parler de plus en plus. Là.
Ben oui, alors donc le sujet, est-ce qu'on devrait abolir le changement d'heure? D'ailleurs, il y a la Colombie-Britannique qui vient de le faire, ils vont changer d'heure pour la dernière fois.
Oui. Oui.
On va garder l'heure d'été. La Saskatchewan le fait depuis toujours et le Yukon aussi ne change plus d'heure.
Depuis le printemps de 2020.
Oui.
Nous, il y en avait été question, puis souvent on disait, bon, on va attendre de voir un peu qu'est-ce qui se passe avec nos voisins du Sud, un peu pour s'aligner avec eux, parce qu'une question de business, d'affaires.
C'est là-dedans. Ça. Puis là, l'Ontario le fait pas parce qu'il attend de voir ce que le Québec va faire, puisque les Américains, l'État de New York va faire.
L'Ontario, d'ailleurs, qui a déjà décidé que si d'entrée de jeu, on allait pour ne plus changer l'heure, eux, ils embarquent.
Oui, 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 exactement.
Je dirais que la consultation a comme été faite.
Mais moi, je pense que l'impression qu'on s'obstinera pas sur le sujet, Jacques, en ce sens que la majorité des Québécois voudraient conserver l'heure d'été.
Ouais.
Que ce soit l'heure d'été à l'année longue, ouais. Et j'en fais partie. Je t'avoue que les changements d'heure, moi, c'est surtout lorsqu'on arrive en hiver, là, je trouve ça poche de voir le soleil se coucher aussitôt. Là. C'est dur sur le moral.
Ce qu'on a publicisé avec ça, puis je veux pas en faire une boutade, là, parce que c'est quand même sérieux en quelque part, là, c'était pour des calculs, comme je disais tantôt, là, d'affaires et tout ça, mais c'est qu'on a calqué un conseil à chaque année au moment où on change l'heure, et là, je pense à nos bons pompiers, de dire vérifier les piles dans vos détecteurs de fumée. Ouais. On s'alignait là-dessus. Ouais. Là, il faudra trouver un autre slogan pour y arriver.
Mais depuis à peu près la Première Guerre mondiale qu'on fait ça changer d'heure.
1916, c'était pour ça qu'on avait fait ça à l'époque.
Question d'économie.
Et depuis ce temps-là, au niveau du Canada comme tel, la pratique est arrivée dans les années 20. Je dis ça parce que j'ai des notes sous le nez, parce que je n'étais pas encore là, toi non plus. Ça a été normalisé dans les années 50. Et là, ce qu'on a fait, c'est que de plus en plus, tu évoquais tantôt les provinces là, qui ont décidé d'être à heure fixe maintenant, depuis changer le cadran.
Saskatchewan et le Yukon, oui.
Ouais, on a fait une consultation parce qu'au gouvernement du Québec, on en avait parlé. Jolin Barrette a été saisi du dossier. Et la consultation publique, ça a été tenu à l'automne de 2024.
Donc, c'est récent.
C'est quand même récent et 91% des Québécois souhaitent cesser de changer d'heure.
C'est ça.
C'est beaucoup.
Ça, ouais.
72% d'eux désirent conserver l'heure d'été en tout temps, donc l'heure avancée de l'Est.
Je garderai l'heure d'été en tout temps, puis peut-être même la température d'été.
Oui, ça, on serait bien d'accord avec ça.
Ouais.
L'Ontario, comme je disais tantôt, ça a été adopté en 2020, mais là, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer.
Avec le Québec.
Avec le Québec, ouais. Et on regarde aussi du côté des États-Unis.
Ça pourrait pas être une promesse électorale, par exemple, pour le Parti québécois, de dire on pourrait régler ça une bonne fois pour toutes, et lisez-nous, puis on va régler ça, l'histoire
de
changement.
On va devenir indépendant du cadran.
Oui, mais c'est parce que c'est bien mélangeant, c'est que en Europe, nos cousins français changent d'heure, je crois, c'est 2 semaines avant nous autres.
Mm.
Alors là, on est vraiment mélangeant.
Non, viens.
À un moment donné, c'est parce qu'on est habitué avec un décalage de 6 heures avec la France, et lorsqu'ils changent l'heure avant nous autres, là, il y a un décalage de 7 heures ou de 5 heures. En tout cas, c'est vraiment, vraiment mélangeant.
C'est assez spécial. On va écouter quelques secondes. Il est vulgarisateur scientifique, professeur et biochimiste. Il s'appelle Martin Carly.
Pouvoir modifier notre routine, donc de la devancer d'une 15aine de minutes à peu près quelques jours avant. Donc, on pourrait faire ça aujourd'hui, par exemple. Avoir une routine très stable au niveau des repas et du sommeil. Donc, de maintenir toujours la même heure au niveau du repas et du sommeil. Ça va nous aider à passer comme ça au-delà du changement d'heure.
Ça, c'est
de faire
pour,
ça de façon progressive.
Ouais, c'est pour éviter ce qu'on appelle le jet lag, le décalage horaire d'une heure. On a toujours, une petite journée. En fait, la plupart des gens comme moi sont affectés pendant peut-être une journée en se disant « Ah, il est déjà 5 heures. »
Moi, je vais te dire que quand tu évoquais tantôt, quand on passe à l'heure d'été, il y a plus de clarté.
Oui.
On souhaite d'avoir plus de soleil, d'ailleurs. Moi, j'ai pas de misère avec ça. Là où j'ai de la misère, c'est l'automne quand on recule.
Celle-là
est un peu difficile.
Et les propriétaires d'établissements licenciés, comme des bars, par exemple, aiment moins ça parce que ça leur coupe une heure, comprends-tu?
Oui.
Et lorsque c'est l'inverse qui se passe, maintenant, ils ont une heure de plus.
Tu arrives à récupérer en quelque part.
Oui.
Mais d'entrée de jeu, je pense qu'on le disait tantôt, ça touche tout le monde. monde. Tout le monde peut avoir son opinion par rapport au pourcentage qu'on nous disait tantôt. Le pourcentage est assez élevé. Maintenant, est-ce qu'il y aura une décision de prise par le gouvernement du Québec? Parce que, et je vous disais tantôt, il y a eu évidemment une vérification avec le gouvernement du Québec, mais il faut dire aussi que du côté du fédéral, faut pas oublier qu'on a des deux gouvernements, là, dans le fond. La députée libérale Marie-France Lalonde a déposé un projet de loi qui proposait l'abolition du changement d'heure partout au pays. C'était en octobre 2025. C'est pas loin non plus. Et évidemment, avec les changements qu'il y a eu au gouvernement, ben tout ça est tombé au calendrier grec, là. On ne sait pas si ça va revenir à l'étude à la Chambre des communes.
Et une chose dont on n'a pas parlé, Jacques, c'est qu'il y a des gens qui sont psychologiquement affectés par ces changements d'heure-là. Est-ce que ça peut avoir un lien avec ce qu'on appelle la dépression saisonnière? Moi, je pense que ça peut être, une partie de la cause.
Ben, je racontais ça, je parlais de mon expérience, parce que oui, je pense que ça peut affecter. Je disais ça à quelqu'un encore dernièrement, là, il commençait à avoir un peu plus de soleil l'après-midi, puis il disait, on va gagner du temps, de clarté et tout. Mm-hmm. Et je lui disais, comme toi, j'ai été assez longtemps morning man, et quand arrivait là, l'automne, là, on se lève le matin, il fait noir. Puis ouais, quand on quittait la station, là, John Lennon, Morning Man, il finit un peu plus de bonne heure que les autres.
Ouais.
Tu quittais la station, tu arrivais chez toi, puis ça prenait pas beaucoup de temps qu'il faisait encore noir.
Ouais.
Alors ça, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça, et ça m'affectait.
Mais là, oui, c'est sûr que ça peut affecter tout le monde, mais là, il y a le phénomène aussi d'être sur le continent nord-américain, d'habiter au Québec. On n'a pas le choix, faut vivre avec nos saisons aussi, Jacques. Et le fait de garder à l'année longue l'heure d'été, ça changera pas le fait qu'en hiver, les journées vont être plus courtes pareil.
Ben, on donnait un exemple, tu sais, le 21 décembre, là, disons qu'on décide de passer à l'heure normale de l'Est, donc d'avancer d'une heure.
Ça, c'est la 21 décembre, c'est la journée la plus courte de l'année.
La plus courte de l'année, en termes d'éclairage.
Oui.
Le soleil se lèverait vers 8h30 pour se coucher vers 17h15, plutôt que de se lever à 7h30 pour se coucher à 16h15.
Moi, je trouve que ça fait pas mal de sens.
Hein? Tu vois, là, il y a comme un genre
je pourrais vivre avec ça, moi, sans problème.
Une petite demi-heure à rattraper, ce qui fait que, dans le fond, tu fais ça par petit bloc de 15 minutes, puis tu y arrives. Là.
Non, moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Franchement, là, prochain gouvernement là, qui sera au pouvoir devrait mettre, au lieu d'aller sur toutes sortes d'espèces de niaiserie, là, on devrait y aller avec ça en partant. On règle ce problème-là une bonne fois pour toutes.
Et
après ça, on ira vers autre chose. Mais, on a toutes sortes de raisons. Les histoires de faire affaire avec, les États-Unis. Faudrait que les États-Unis suivent. Puis l'État de New York et le Vermont.
De toute façon.
Mais non, je pense qu'ils vont finir par s'adapter aussi. Là, puis à un moment donné, écoutez, là, ça date de la Première Guerre mondiale. Il serait peut-être temps qu'on se réveille et qu'on arrête de jouer avec le changement d'heure.
Mais tu sais, quand tu dis est-ce qu'on va suivre ou pas les États-Unis, qu'on soit à l'heure avancée ou à l'heure normale de l'Est, actuellement, on a de la misère à suivre le président des États-Unis.
Tout à fait.
Peu importe l'heure.
Il vit pas à même heure que
non,
nous autres.
Exactement.
Merci, Jacques Plante.
Salut, Claude.
16h53.
Lanaudière PM. Consommation.
Une application nommée Flash Food permet, semble-t-il, d'empêcher que des aliments encore bons pour la consommation se retrouvent dans des sites d'enfouissement. L'application ne peut être utilisée que par les clients des chaînes Maxi, du moins pour l'instant. François Morin a échangé là-dessus avec Daphné Ménard. Elle est directrice stratégie des processus opérationnels pour Maxi et elle nous explique comment fonctionne cette fameuse application.
Eh bien, Flash Food, c'est une application mobile qui permet aux consommateurs d'acheter des produits à prix réduit. Donc, on télécharge cette application-là sur un téléphone intelligent et ça nous permet d'économiser jusqu'à 50% du prix des produits d'épicerie qui se retrouvent sur l'application. Donc, quand le consommateur télécharge l'application, il a les sites Provigo et Maxi dans lesquels on a... évidemment, Flash Food, à proximité de l'endroit où il se trouve au moment où il est sur l'application.
Ça veut donc dire qu'on ne peut pas économiser autrement que par le biais de l'application.
Pour Flash Food, il faut avoir l'application de télécharger sur un téléphone intelligent, effectivement, pour pouvoir utiliser cette application-là.
Et il y a des statistiques quand même assez probantes, là, notamment pour la Naudière. Ça a été, entre guillemets, là, payant rentable.
Absolument. Les gens de votre région ont économisé 633 000 $ via l'application Flash Four, donc c'est non négligeable. Et ils ont aussi détourné des sites d'enfouissement 94 940 kg d'aliments. Donc, c'est vraiment très intéressant.
J'aurais envie de me faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, justement, d'élargir la connaissance là, des produits qui pourraient être achetés là, à bas prix, c'est-à-dire sans passer nécessairement par une application où ça serait trop fastidieux puis on craindrait, justement, la cohue?
Je peux pas vous répondre à cette question. Je suis pas vraiment la bonne personne. Par contre, je peux vous dire que c'est pas compliqué d'utiliser Flash Food. C'est vraiment une application qui est très facile, qui est conviviale, qui est intuitive. Donc, c'est intéressant pour le consommateur et c'est beaucoup d'économies pour les familles et les gens dans chacune des régions. Il y en a partout à travers le Québec. Donc, l'application, c'est vraiment la bonne façon de faire.
Et cette application-là est disponible seulement pour les clients de Maxi, j'imagine?
Cette application-là est disponible pour tout le monde. Seulement Flash Food, c'est dans les sites Provigo et Maxi. Donc, c'est une application qui est disponible sur le téléphone intelligent. Donc, les achats doivent se faire via l'application et être récupérés dans un Provigo et dans un Maxi ou dans un Maxi de la région dans laquelle vous êtes au moment où vous faites vos achats.
À une époque où on se plaint de façon très justifiée sur le prix des aliments, c'est le genre d'application, et là je comprends que vous êtes dans une drôle de position, mais c'est le genre d'application dont tout le monde pourrait bénéficier, toutes les grandes bannières pourraient mettre ça de l'avant.
Absolument. Le Flash Food, c'est pas une application qui appartient à Maxi. Si tout le monde pouvait utiliser une application pour détourner les aliments des sites d'enfouissement, on serait tous gagnants. C'est une application qui est intéressante pour le consommateur parce qu'il y a beaucoup de produits qui se retrouvent là-dessus. On a des fruits et légumes, on a de la viande fraîche, de la viande surgelée, on a de la charcuterie, de l'épicerie. C'est la seule particularité, ce que le besoin du produit, c'est d'être près de la date de péremption. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est toujours nourri et il y a toujours des aliments disponibles pour les clients à un moindre coût.
Je sais très bien que Maxi et les bannières là, qui cohabitent là, avec Maxi font des efforts considérables pour aider les banques alimentaires. Si les banques alimentaires utilisaient Flash Food, ça irait encore plus vite.
Les banques alimentaires, on s'occupe des banques alimentaires aussi, puisque Flash Food ne peut pas régler le problème du gaspillage alimentaire à lui seul. Donc, les banques alimentaires sont un partenaire de longue date de Maxi et de Provigo et nous les représentons très bien. On leur donne encore beaucoup d'aliments aux banques alimentaires et lorsque le programme Flash Food est terminé, quand le produit arrive à son terme, les produits sont détournés vers les banques alimentaires du Québec via nos magasins.
Très bonne initiative de Maxi et Provigo. On a entendu Daphné Ménard, elle est directrice stratégie des processus opérationnels pour Maxi. Maintenant, ben, il resterait à ce que les autres chaînes d'alimentation le suivent avec cette application Flash Food. Vraiment une belle initiative, faut le mentionner. Voilà, il est 16h59, c'est déjà tout pour celui qui vous parle. Ici Claude Fournel, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je remercie nos collaborateurs à l'émission, François Morin, Pierre Jubinville, Jacques Plante. Il y a Nicolas Bellemare qui s'amène dans un moment pour vous présenter le 5 à 7 trad à CFNJ. Nous, on sera au rendez-vous demain à 16h pour une autre édition de La Naudière PM. Passez une belle soirée. Bye-bye.